retrouver Lesbosson avec Nathalie Di Palma. Sur les ondes de CKUT, le 90.3 FM.
Bonsoir. L'émission de ce soir est une conversation autour d'un souper avec Lucie Duguay, qui a eu plusieurs bars lesbiens à Montréal, dont le K2, le Standing et le Sisters. Elle nous raconte son cheminement hors du commun qui l'a conduite à ouvrir des bars pour les lesbiennes. Autour de la table, on retrouve Abby Schachter, qui a travaillé pour Lucie au bar Le Standing, Pascal McCoy, qui a travaillé au Sisters, et Richard Trudeau, qui était gérante au Sisters en haut du Cox, ainsi que moi-même, qui a été barmaid au Sisters en haut du Saloon. Vous nous excuserez pour l'ambiance un peu bruyante et bienvenue à notre souper d'anciennes travailleuses dans les bars lesbiens dirigés par Lucie Duguay à Montréal.
L'historique des bars de Montréal, des bars lesbiens, c'est parce que je suis un cas extrêmement spécial et à la limite bizarre. Parce que je correspond à aucun type de personne que tu aurais pu penser que j'allais avoir le cheminement que j'ai eu. D'abord, c'est important que tu saches que je suis la cinquième d'une famille de sept. Quatre garçons avant moi, deux filles après moi. Donc, j'étais la cinquième de la famille. Ma mère disait que j'étais le cinquième garçon et la première des filles. Fait que ça te situe un petit peu l'ambiance dans laquelle j'ai été élevée. Je me suis retrouvée dans une école qui était le Collège Marie-de-France, où est-ce qu'il n'y avait pas de religieux. Parce que mon père a vécu d'être éduqué au séminaire de Nicolette et de voir 38 personnes sur 40 de ses confrères devenir des curés. Et lui, il était un des deux qui n'est pas devenu curé. Wow. Et il avait juré que ses enfants ne mettraient jamais les pieds dans une institution religieuse. Ce qui, dans le fond, nous donne un petit tuyau de ce qui a pu voir se passer dans ces périodes-là. On le sait aujourd'hui, mais dans le temps, on ne le savait pas. Alors, je fais mon cours au Collège Marie-de-France, puis au Collège Marie-de-France, c'est un collège parce qu'il y avait 400-500 personnes. Et je connaissais tous les élèves de chaque classe par leur nom et prénom. Puis je connaissais toutes les surveillantes, je connaissais tous les profs. J'étais au Collège Marie-de-France, c'était comme j'avais développé ma connaissance de ce milieu-là, ce qui fait que j'étais hyper confortable. J'étais dans mon élément. Et donc, je me suis bâti toutes sortes de façons de faire mes liens. Alors, exemple, mon frère Gilles était amoureux d'une fille qui était en deuxième ou en première, je ne me rappelle plus. Et le matin, il me donnait une lettre que je devais apporter à Claire. Et à la fin de l'après-midi, je devais aller chercher la réponse de Claire pour mon frère. Et là, il me demandait, comment est-ce qu'elle était? Je disais, gentille. Il dit, pas ça, je te demande. Et là, dans le fond, mon frère m'a appris à regarder les femmes comme lui les regarde. Donc, c'était une façon de regarder qui était un regard masculin posé par une fille. Mais moi, je faisais pas ces nuances-là. Là. Quand je te demande comment est la fille, tu me dis pas qu'elle avait des beaux petits bas roses. Tu me dis d'autres choses. Bon. Alors, je grandis dans un milieu où est-ce que il y a beaucoup de choses qui sont dans le non-dit. Les profs, on soupçonne que certains profs qui ont l'air de s'entendre particulièrement bien ont peut-être autre chose que la science de l'éducation en commun. Mais on le pensait, on le disait un peu, mais on ne mettait jamais ça au clair. Donc, tu as fait une histoire courte. J'ai étudié en histoire et géographie à l'université 2 ans. Je suis devenu professeur. J'ai enseigné pendant 1 an de temps à Saint-Hyacinthe dans une classe de filles qui étaient comme... J'avais 18 ans, puis elles en avaient 16. Fait que, heureusement que j'avais l'estrade pour me mettre 6 pouces plus haut qu'eux autres parce que la différence n'était pas très, très grave. Et donc, j'ai fait cette année-là d'enseignement. Puis quand je suis revenu à Montréal, le gars qui était à Saint-Fabien, Aubert Briand, dont j'ai acheté la maison par la suite, mais qui était vraiment un gars de la place à Saint-Fabien, il me téléphone puis il me dit « Passe à mon bureau, j'ai besoin de te parler. » J'arrive à son bureau et il me dit « Il y a un gars qui veut me vendre son agence de publicité, puis tu le connais. » Je dis « C'est qui? » Il me dit « Jean Lorac. » Je dis « Ah ben, je connais surtout sa sœur, mais oui, il est marrant le gars, il fait des trucs, mais il prend un coup, puis il est pas tout le temps fiable. » Fait que là, il me dit « Tu devrais acheter ça, cette agence de publicité. » J'ai dit « Ben voyons donc, je suis professeur d'histoire et de géographie, je connais rien à la publicité, je connais rien. Et il me dit, si t'embarques, j'embarque avec toi 50-50. Fait que là, c'était la première fois que je t'ai posé devant un choix. que j'avais absolument pas pensé à faire à aucun moment. Et puis là, j'ai fait comme, bon, j'ai fait la rue René-Lévesque, dans ce temps-là, ça s'appelait Dorchester, d'un bout à l'autre, à peu près une quinzaine de fois. Je suis revenu et j'ai dit, quand est-ce que ça te prend une réponse? Il me dit, cet après-midi à 3 heures. Il était 11 heures du matin. Fait que ça me donnait pas grand temps pour réfléchir. Alors, je fais ça et je me dis, il pense que je suis capable de le faire. S'il a raison, je suis partante. Puis s'il n'a pas raison, je retourne enseigner. Fait que j'ai dit oui. J'ai acheté l'agence de publicité. Et pourquoi j'ai pu l'acheter? C'est que j'avais eu un accident 2 ans plus tôt où j'étais passagère, puis j'avais été projetée dans le pare-brise, puis j'avais eu une chirurgie plastique. Bref, j'avais fait quelques sous. Et à cause de ça, j'avais de quoi acheter l'agence. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, je suis devenue agente de publicité dans le domaine du spectacle, impresario et producteur de spectacle. Et ça, ce que ça a fait, c'est que ça me préparait. Aubert était propriétaire d'un immeuble au coin de René-Lévesque et Mackay qui s'appelait l'Hôtel de Province. Puis en bas de l'Hôtel de Province, il y avait un restaurant, mais qui ne marchait plus. Et moi, je disais à Aubert, ben, Paris, c'est les discothèques, puis tu mets les disques, tu n'as plus besoin des artistes, puis les gens viennent, puis ils dansent, puis la vie est belle. Fait qu'il dit, bon, ben, dit, tu vas faire ça, toi. Tu vas partir de la discothèque en bas. Fait que moi, je ne savais pas dans ce temps-là la différence entre un scotch et un rail. J'avais 21 ans, je connaissais rien. Je fonçais dans tout. Tu me disais, il y a une porte ouverte là. Oh, ouais, on rentre dans la porte. Bref, on a fait arriver ce qu'on a appelé la boîte. Et la raison pour laquelle on l'a appelé la boîte, c'est que d'abord, dans le jargon français, sortir en boîte, ça fait chic. On va en boîte, à la boîte. La réalité des faits, c'est que le décor de la boîte, c'était des caisses de beurre en bois sur lesquelles on avait collé des coussins de jute. Et ça, c'était des boîtes. Fait que ça, c'était la boîte. C'était ça, la grande idée. T'appelais ça la boîte. Bref, le directeur de l'hôtel, voyant le succès incroyable qu'on a eu immédiatement, mai 66, on est devenu la place où il fallait aller. C'était incroyable. Et donc, là, le directeur de l'hôtel va faire une scène à Aubert en disant « C'est pas normal que cet argent-là, il est fait dans l'hôtel, puis il devrait rester à l'hôtel, puis on pourrait payer les réparations de l'hôtel, puis il voulait avoir ma place. » Fait que là, Aubert me fait venir, puis il me dit « On a acheté un immeuble au coin de Saint-Paul et Saint-Laurent. C'est un immeuble historique. On va faire une discothèque là-dedans. Puis toi, tu vas ouvrir la discothèque là, puis on va laisser Jacques Poisson ramasser la boîte. » Fait que là, on est allé voir avec Jean-Louis, mon mari, qui est architecte. On est allé voir la place. Et il n'y en a pas eu de plus belle depuis à Montréal. Alors là, on ouvre la nouvelle place et on l'appelle le Cercle. Le Cercle faisant appel aux gens qui se réunissent et qui aiment bien se rencontrer pour un cercle littéraire, puis un cercle d'affaires, puis un cercle, bien, on appelait ça le cercle. On était dans les figures géométriques, la boîte, le cercle. Mais ça a marché super bien pendant 14 ans. Mais là encore, il faut que tu comprennes que pendant ce temps-là, j'étais associée avec Guy Latraverse, puis on produisait des spectacles comme Pétula Clark, puis Charles Aznavour, puis Juliette Gréco, puis Enrico Macias. Puis je faisais discothèque la nuit, je faisais la gestionnaire du bureau le jour, je travaillait 8 jours sur 7. Puis à un moment donné, Guy était bipolaire. Et il ne le savait pas, et nous non plus. Et à un moment donné, il part à Toronto avec Pétula Clark et son mari. Il fallait qu'il ramène les recettes parce qu'on avait des comptes à payer, des musiciens à payer, des dépôts pour des salles. En tout cas, bref, je jonglais comme une vraie malade, des situations très, très délicates. Il revient, il a donné de l'argent aux musiciens, il a joué aux cartes avec Claude Wolff. Bref, il avait les yeux vides. Fait que là, j'ai dit à Aubert, je dis, regarde, je pense que lui, il devrait rester faire le spectacle, puis moi, je vais aller faire la boîte. Parce que faire les deux, là, je capotais, je travaillais trop. Donc, c'est là que mon orientation boîte de nuit est devenue vraiment sérieuse. Là, c'est là que j'ai fait comme, c'est ça que je fais, c'est ça que je fais. Et la boîte que je dirigeais était une des boîtes les plus connues de Montréal, une des plus prestigieuses et certainement la plus belle. Et à cette époque-là, on faisait des premières de spectacles, il y avait des lancements de disques, des lancements de livres, bref, c'est là que ça se faisait. Alors, c'est là que je me suis guéri. Et c'est là où j'ai appris l'importance de connecter avec chaque personne qui met les pieds chez toi. Peu importe que le contact soit court, long, que tu parles, que tu parles pas, il faut que si tu veux que, vraiment que ça marche bien, faut que tu fasses le contact. Et c'est là où j'ai vraiment développé ce talent-là. Je regardais les gens descendre l'escalier, là, puis je pouvais te dire avant qu'ils arrivent à la porte quelle sorte de personne que c'était, puis si on avait envie qu'ils rentrent ou qu'ils rentrent pas. Tu développes vraiment un jugement infaillible quand tu vois 2000 personnes par semaine. Alors, c'est là où j'ai vraiment appris mon métier pour les boîtes de nuit. Là où je veux en venir, c'est ceci. Quand j'ai rencontré mon mari, Jean-Louis, je savais pas qu'il était gay. Je savais même pas c'était quoi un gay. J'avais jamais entendu le mot. C'est-à-dire, là, moi, j'ai été élevée à Antique, puis par une mère qui venait du bas du fleuve, puis le mot homosexuel, jamais entendu. Le mot gay, jamais entendu. Fait que je le trouvais charmant, drôle, intelligent. On trippait ensemble à fond. Et c'est longtemps après que j'ai fait sa connaissance que j'ai su qu'il était gay. Alors là, évidemment, j'ai commencé à m'intéresser aux gens qui connaissaient et qui me présentaient en me disant ils sont gays. René Aumirois, Daniel Girard, le chanteur, Émilien Morissette, le sous-ministre à la culture à Québec. Bref, il me présentait du monde. Là, je disais, ah oui, ben écoutons, tu sais. C'était intéressant pour moi de découvrir ce monde-là. Le milieu des femmes, celui-là était pour moi totalement invisible. Et à quel moment est-ce que j'ai découvert qu'il y avait des femmes lesbiennes à Montréal? C'est que j'ai une secrétaire qui, quand je l'embauche, me dit, là, je viens ici pour travailler et je ne veux aucune question personnelle. Rien. Pas de relation personnelle. Fait que je la regarde puis je dis bonjour, comment vas-tu? C'est trop personnel, tu sais. On en a ri, mais c'est resté comme ça pendant un grand bout. Ben, à un moment donné, cette fille-là qui était d'autre part très très fiable, elle se présente pas au travail. Et elle arrive vers 2h de l'après-midi avec de toute évidence des relents de vin rouge, vin blanc, gin, scotch, whatever. En tout cas, elle est encore paf. Puis là, elle me dit je m'en viens te voir parce que je suis scandalisée de ce que j'ai vécu hier. Elle dit je dois t'avouer que je suis homosexuelle. Fait que là, j'ai fait, ben, correct, j'ai pas de problème avec ça. Et là, elle me dit, je suis sortie dans un bar qui s'appelle le Jilly's. Le Jilly's, sur la rue, je me rappelle plus, je pense que c'était Crescent, Drummond, ou en tout cas dans ce coin-là. Et là, elle me dit, les femmes sont traitées comme rien, ils ont pas de respect, ça a pas de style de bon sens de se tenir dans un trou semblable, puis j'en peux plus, ça me fait mal au cœur de devoir vivre ça. Fait que là, je venais d'apprendre deux grosses nouvelles. Un, que ma secrétaire était gay, et que j'en connaissais pas une seule avant, je savais pas à quoi ça ressemblait, moi, une fille gay, je n'avais jamais vu une. Et là, elle me compte ça, et la semaine d'après, je lui dis, tu vas m'amener, je vais aller voir c'est quoi que vous avez comme place. Puis là, je suis rentrée dans cette place-là, puis il y avait une fille qui s'occupait de... qui réussissait à louer le bar d'un propriétaire mafieux. Fait que là, j'entre dans ce bar-là, les filles sont assises sur des caisses de bière, des tables bancales. Tu prends un grand manier qu'on te charge un prix de fou, puis ils te servent ça dans un verre de carton. Le propriétaire du bar, j'ai jamais su son nom, mais la fille qui s'appelait Ginette Lapointe, elle avait réussi à le convaincre de lui louer son bar 2 soirs par semaine pour que les filles puissent sortir là. C'était 2 soirs, jeudi vendredi, et après ça, ça a été jeudi, vendredi, samedi. Et donc, quand j'ai vu ça, moi, j'en revenais pas, parce que j'opérais le bar le plus élégant de Montréal, dans des voûtes de pierre, la deuxième maison de Marguerite Bourgeois, avec la crème de la crème en termes de clientèle, et là, j'arrive dans un trou, tu vas à la toilette, tu te retiens, tu rentres dans la chambre de bain, puis tu ressors, tu y vas même pas. Fait que là, quand ils ont commencé à me parler, ils m'ont demandé de faire un rendez-vous avec elle, puis ils m'ont dit, nous autres, on est prêts à investir. On veut ouvrir un bar pour les filles. Fait que là, moi, j'avais un bar straight qui s'appelait Le Cercle. Je disais, ben oui, mais là, c'est de l'ouvrage ouvrir un bar. Là. Ça prend du cash, l'aménagement, ouais. Les permis, les ceci, les cela. Bref, c'était du travail. Mais je me suis dit, je vais diversifier ma clientèle parce que ça ne vient pas toucher absolument pas la clientèle que j'ai dans le Vieux-Montréal. Puis je vais ouvrir un autre bar dans l'Ouest. C'est correct. C'est un bon plan d'affaires.
On est dans quelle année?
On est dans les années 80 de mémoire, là. Je peux pas te dire 81, 82, 83. Bref, on fait arriver ce bar-là. Alors, ma première rencontre avec le milieu gay féminin, je te le décris. On vient de leur donner un bar où elles ont des banquettes de velours, des verres pour le dry martini, des salles de bain somptueuses. Et là, les filles chialent parce que la bière est 50 cents trop chère. Et là, ça a fait comme... Oh, c'est pas la même clientèle que celle que j'ai dans le bas de la ville, dans le Vieux-Montréal, où est-ce que tu charges 5$ pour une bière, y'a pas un mot, hein, t'sais. Alors là, à ma plus grande surprise, je vois dans ce bar de filles des clientes de mon bar straight dans le Vieux-Montréal. Et là, je fais comme, qu'est-ce que vous faites ici? Puis elle me dit, ben, les femmes sont tellement belles, il y en a tellement, puis c'est une excellente place pour croiser. Alors moi, je tombe des nues, je fais, ah! J'ai de la clientèle gay, féminine, dans mon bar, dans le Vieux-Montréal. Alors, là, tu vois, ça m'ouvrait un autre panneau où est-ce que je voyais du monde qui, pour moi, était invisible avant. Moi, je connaissais pas une fille gay. Pas une. Zéro. Quand ma secrétaire m'a dit qu'elle était gay, là, c'était comme « Ah! » Parce que ça ressemble à une fille gay. Elle connaissait zéro. Alors, pour te dire qu'on partait de très, très loin pour ce qui est de la reconnaissance et pour faire arriver les choses. Quand, après, j'ai fait l'une et l'autre, et finalement, le gars avec qui j'avais investi, il avait décidé... Les filles, à un moment donné, vraiment, ça ne marchait pas. On faisait pas d'argent, on perdait de l'argent. Fait que j'ai eu un offre pour que ça devienne un bar gay. Gay. Homme. Et je dis à mes partenaires, écoutez, bien de valeur, moi j'ai déjà mis 50 000 dans l'affaire, là, j'en mets pas plus, je perdrai pas ma maison là-dessus. Fait que, on a vendu à un couple de gars qui était, mais vraiment le prototype des gars gays, là. Roger était comme ça, et je me rappelle plus le nom de là. En tout cas, bref, il avait mis des larves de Michel-Ange partout dans le bar. Des petits, des grands, des gros, des hauts. En tout cas, bref, il y en avait, je pense qu'il y en avait une vingtaine. Et mon partenaire vient me voir, c'est le frère de Guy Boucher, le comédien. Et lui était médecin, était chirurgien, puis il me dit là, tu vas exiger qu'il enlève ça, c'est tellement quétaine, c'est tellement de mauvais goût. Je dis excuse-moi, ils ont une entente de gérance, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent se promener tout nu dans le bar, ils ont le droit de. C'est leur bar. Ils te payent, tu dis pas un mot, tu ramasses ton enveloppe, puis tu t'en vas chez vous, c'est eux autres qui opèrent. Alors là, ça l'insulte tellement qu'il me dit dis-moi combien tes parts valent, je te rachète, puis il m'a racheté pour pouvoir mettre les deux gars dehors. Quand tu as mis les deux gars dehors, ils sont partis eux autres, ils ont trouvé une autre place pour aller faire le même deal que je leur donnais. Et en un mois, ils sont partis avec toute leur clientèle. Fait que j'avais mon chirurgien qui était dans la place avec son amant, avec zéro client. Fait que, c'est, pour te dire, la découverte du monde gay a été vraiment pour moi là, une révélation après l'autre. Tu sais, comment est-ce que ce monde-là se comporte, c'est quoi qu'ils font, qu'est-ce qui est fait vivre, qu'est-ce qui est fait santé. Un petit limoncello?
Oui!
Oh, c'est bon!
Santé. Oh, c'est délicieux.
C'est pas bête, hein?
Très bonne idée.
Alors, j'ai eu également un bar de jazz. Bon, ouais. J'ai acheté un bar qui s'appelait L'Air du Temps. Et puis, après 14-15 ans d'opération, quand il m'a offert de me racheter, j'ai vendu. Et après ça, c'est là que j'ai été approché par Bruce Orlin pour aller l'assister pour ouvrir un espace pour les filles dans le grand complexe du Cox. Mais quand il m'a rencontré, au lieu de juste me mettre en haut à m'occuper d'un bar de filles, il m'a nommé gérant général de tout l'établissement. Fait que là, j'opérais le Cox, le Catacombe, le cachet, le sister, bref, tout. Et ça a duré pendant un grand bout de temps.
Ça s'appelle Cadet,
oui, parce qu'il m'avait donné comme mandat de nommer le bar des filles. Il fallait que ça commence par K. Fait que moi, j'ai pris le dictionnaire, puis j'ai regardé qu'est-ce qui commence par K dans le dictionnaire. Puis K2, c'était une des premières. J'ai découvert que c'était le plus haut sommet au monde.
Ouais, c'est cool.
Puis je me suis dit, ben pourquoi pas K2? Là,
ça marchait parce que c'était à l'étage.
Ben oui, c'est donc, ça, justement.
Alors donc, on a appelé ça K2, mais là, fallait que je donne un cours de géographie à tout le monde. C'était quoi le K2? C'était dans la, c'était dans l'Himalaya, la. Bref, j'ai fait mes classes avec Bruce. Ça a été quelque chose d'assez incroyable parce que...
C'était gros aussi.
C'était énorme. On avait... Là encore, j'ai une bonne capacité de transiger avec les gens. Les barman, les busboys, les gars de ménage, les portiers, n'importe quoi. Je connaissais tout le monde, leur nom. Je connaissais leur histoire. Je les regardais rentrer. Je savais s'ils étaient en forme ou pas en forme. J'ai vraiment développé la science du comportement des personnes dans ce travail-là. Je regarde une personne marcher, là, puis disant dans quel état elle est. C'est juste de regarder comme il faut. We'll be right back.
On poursuit la conversation avec Lucie Duguay qui nous parle de son cheminement qui l'a mené à ouvrir les bars lesbiens les plus populaires de Montréal en compagnie d'Abby Schachter, Richard Trudeau et Pascal McCoy.
Alors, pour en venir aux bars de femmes comme telles, quand on a fait le Sisters, je me suis rendu compte que les filles adoraient avoir la permission d'amener leur meilleur ami gay masculin. Et là, c'est là que j'ai découvert que la dynamique des filles n'étaient pas la même que la dynamique des gars. Moi, j'étais la seule femme qui circulait librement dans tout l'édifice. Je rentrais aux catacombes, puis les gars qui étaient en train de se baiser dans les coins, là, j'ai tout vu. Mais j'étais la seule fille qui circulait partout. Alors qu'en haut, les filles demandaient la permission pour amener des gars. Puis les gars couraient pour venir dans le bar des filles. Fait que ça a été un problème dès le début parce que là, on avait les puristes qui disaient « Comment ça se fait que tu laisses rentrer des gars ici? Puis c'est un bar de filles, puis c'est pour les filles, puis les filles, les filles, les filles. » On se calme. Personne ici qui va faire de mal à qui que ce soit. Tu veux pas le voir. Regarde à côté. C'est quoi ça? Moi, le bar que j'avais ouvert sur la rue Mackay, ça s'appelait L'une et l'autre. L'idée étant, l'une, c'était les filles, et l'autre, c'était, peu importe, c'était l'autre. Et c'est ma philosophie de la vie. Je suis pas capable de faire des exclusions complètes. Je trouve ça ridicule de dire t'es exclu. Ça monte pas dans la tête. Alors, j'ai jamais été capable d'opérer en ayant ce critère-là. J'ai toujours eu des critères assez ouverts. Mais tu remarqueras que quand tu travaillais aux Sisters, toi aussi, on n'avait pas beaucoup de gars.
Non.
Mais ceux qui...
Ah, t'emportes avec les gens que je ne laissais pas rentrer.
Oui, mais ceux qui venaient avec les...
La plupart du temps, c'est des amis gays, justement.
C'est ça.
C'était comme, tu te portes responsable de son comportement.
Ouais.
C'était un pour un.
Oui.
Tu peux pas arriver 6 gars, une fille, là, ça passait pas.
Oui, mais on avait toujours un esprit inclusif. Mais ça veut pas dire, tu comprends qui est devant toi aussi. Il faut capter l'énergie. Ouais. Quand tu travailles dans le nightlife,
tu le vois quand c'est une
fille. Il faut quand même scanner. On scanne vraiment facilement.
Puis c'est pas long. Le temps, ça doit prendre plus que 15-20 secondes pour savoir à qui t'as affaire. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai fait ça. Dans le fond, la constatation que je fais, c'est que une des raisons pour lesquelles les bars féminins ont eu tant de difficultés à chaque fois à survivre, ça tient beaucoup au fait que les femmes font 40 % moins d'argent que les gars. Puis les femmes sont beaucoup plus conservatrices. Si elles ont un travail et une copine, elles vont sortir, mais vont sortir comme gentiment. Elles vont pas trop se défoncer. Alors que les gars, ça peut rentrer puis boire leur paye puis se déchaîner puis coucher avec le premier venu dans n'importe quelle toilette. Ça n'a pas de bon sens. Mais les filles sont pas comme ça. Les filles ont un standing. Tiens, c'est un des bars que j'ai eu, ça, qui s'est appelé le standing.
Voilà.
Ça a été un bon bar.
Oui.
Ça a été mon meilleur bar.
Oui!
C'était le plus beau, le plus sexy.
Oui, j'ai trouvé... C'était quand même communautaire. On a fait c'était ouvert l'après-midi. Souviens quand on a fait des manifestes, on a planifié pour des manifestes là. Il y a plein de trucs qui arrivaient même durant le jour que Lucie a ouvert la porte à tout le monde dans la communauté de faire. C'est ça, on a eu des discussions, on est tout assemblé pour planifier, manifester, tout genre d'affaires qui se passent à 24 sur 17. C'était vraiment, ouais.
C'était où le standing?
Le standing, c'était sur la rue Ontario, à l'angle de... Il y a une mosquée là en ce moment. Oui. Tu parles d'un choc. S'ils savaient eux autres ce qui s'est passé là. Les filles, il y avait un mur qui était très très haut, qui avait dû faire 25 pieds, qui avait une tablette devant, parce que les filles montaient pour danser. Et c'était... Écoute, c'était l'époque de Madonna. C'était hallucinant. Les filles étaient belles, ils étaient sexy. C'était merveilleux. Ça a été... Mon fils Mathieu travaillait comme portier avec Claudine Blanchette. Ça a été l'équipe du tonnerre à la porte. Et il y avait toi qui travaillais, il y avait Daisy, Michel Chauffy. On avait un staff de rêve. C'était vraiment c'était le fun d'aller travailler là. Tu t'en allais en party à tous les soirs, tu sortais de les poches pleines. La vie était belle. Donc ça a été un épisode qui est venu après le fait que quand j'ai arrêté de travailler pour Bruce à un moment donné, parce qu'on a eu une espèce de litige sur la façon de gérer certaines situations.
Et lui, il était très « my way or the highway », puis il était pas content de décrire, puis il m'avait mis à pied. Alors, après ça, j'avais été... tout le monde m'appelait et me disait « Ah, je rencontre un gars au IGA où j'allais, puis il s'appelait Daniel Bourdage. » Et lui, il avait ouvert une idée géniale. Il avait ouvert un bar qui s'appelait H2O. Oh, la grosse découverte, toi, là, un bar où il allait vendre de l'eau. Ah, ben là, j'ai fait comme... Puis il me disait, ça marche pas vraiment. J'ai dit, ça marche pas? Quelle surprise! Fait que, quand je me suis retrouvée à Power de bar, c'est-à-dire, j'ai été travailler... Mireille Lafèche, c'est une fille que j'ai connue dès mes tout débuts. Quand j'ai commencé à aller voir ce qui se passait au Bilitis, sur la rue Saint-Denis, j'étais scandalisée, là aussi, de voir la qualité du lieu. C'était comme... On traitait les filles comme n'importe quoi. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'était la seule place où ils pouvaient sortir. Fait qu'il y avait... Il y avait un monopole qui était vraiment... Moi, ça m'irritait au plus haut point. Et le patron m'avait rencontré puis m'avait demandé de gérer la boîte, ce que j'ai fait. C'est là que j'ai connu Abby. J'étais installée au bar, puis j'ai embauché le monde, petit à petit, une ici, une là. Catherine, c'est là qu'elle a commencé à travailler avec moi comme shooter girl. C'est ma fille, Catherine. Et donc, je me suis retrouvée, là encore une fois, dans un milieu. Le patron, c'était un mafieux. Il se dealait de la coke dans l'arrière-boutique. C'était comme... Moi, j'avais me dit, la police rentrée, on se fait tout mettre dans le panier à salade. Ça n'avait pas de bon sens. Le système de son, c'était... Mon système de son chez nous, dans le salon, était meilleur que celui-là. En tout cas, mais bref, c'était ça la place que les filles avaient. Quand Jean-Guy m'a dit que, ben, je couchais... C'est parce qu'au début, il pensait pas que j'allais arriver à faire quoi que ce soit. Fait que j'ai pris un très petit salaire et un bon pourcentage des ventes. Mais quand mon pourcentage des ventes est monté à un montant intéressant, il m'a mis à pied. Fait que là, c'est là où est-ce que j'ai pensé à mon ami Daniel Paul qui avait un bar où il vendait H2O. Et là, je l'ai appelé et j'ai dit, « Cette tante, je m'en viens chez vous, je l'opère. » Fait que on a déménagé là et là, on a fait même pas une invitation écrite. On a passé le mot. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de Facebook, rien. Là. On a passé le mot et on a vidé le Biltis en une fin de semaine. Il était tout rendu au standing. Et là, on a eu le bar, le plus fun pendant des mois et des mois. Et ça, ben, ça a fait un temps. Et après ça, je suis allée faire le Cox, le Catacombe et le K2 avec Bruce. Et après ça, j'étais faire en haut du saloon, le Sisters. Puis après ça, j'étais fermé le Magnolia. Et depuis ce temps-là, il n'y a pas eu un seul bar de filles, juste pour les filles à Montréal. Et ça me chagrine beaucoup parce que, moi, de mon point de vue, c'est facile à faire, mais il faut le faire.
Mais comment on explique ça, que les femmes prennent pas la relève d'ouvrir un bar? Est-ce que...
Moi, je comprends pas. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas eu, depuis que j'ai pris, ça fait 15 ans là, que je suis sortie du milieu, il n'y a pas eu une seule place. J'ai vu, là, Let's Spread the Word, mais c'était une soirée par semaine ou par mois, je sais pas, c'était pas comme... Ça prend un lieu où tu peux dire, il y a un endroit où je sors, puis t'es pas obligé de sortir là trois semaines, mais quand tu veux sortir, ta place est là. Qu'il n'y ait pas personne qui ait pris la relève et qui l'ait fait arriver, ça en dit long sur l'absence d'entrepreneurship des filles. La peur également d'être mis dans une catégorie bar gay. Parce que c'est quand même, c'est ostracisant. Quand j'ai été travailler à Montréal 2006, j'étais présidente de Montréal 2006.
Les Hard Games.
J'ai entendu plein de témoignages de personnes d'ici de Montréal, mais également de l'extérieur, particulièrement la délégation de Sydney, où ce qu'on me racontait de Sydney, c'était comme copie conforme de ce qu'on avait ici. C'était donc, je me suis dit, c'est un comportement absolument et purement féminin, cette espèce de difficulté à occuper le terrain, puis à dire, c'est notre place, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on est. Je sens pas ça chez les filles. Je sens quasiment qu'il y a une espèce de petit retrait qui ne sont pas...
Pourtant, aujourd'hui, ça devrait être plus facile.
Ça devrait, mais je constate quand je regarde et j'écoute beaucoup, je vais beaucoup voir sur les réseaux sociaux ce qui se passe, puis il y a des... on dirait qu'on n'a pas vraiment beaucoup progressé. Alors, est-ce que je suis optimiste pour ce qui est de voir s'ouvrir des boîtes gays à Montréal sous peu? Moi, en tout cas, je suis prête à faire du coaching, n'importe quoi. Mais ça prend quelqu'un qui est vachement motivé et puis qui travaille. Moi, j'ai travaillé. Je sais que j'ai travaillé fort. C'était pas un hasard quand le monde montait les escaliers. Fallait que t'en fasses sortir 1000 par semaine. 200 le jeudi, 250 le vendredi, 250 le samedi. Si tu n'avais pas ça, tu peux pas payer tes salaires. Fallait le faire. Elle faisait des... Elle arrêtait pas de faire des... d'organiser des parties, puis de trouver des thèmes, puis de faire des flyers.
Je me suis donné...
Mais Richard était gérante du Sisters. Est-ce que tu as été gérante de d'autres bars de filles ou après il y a eu le Sky, le Unity?
Le seul bar de filles pour lequel j'ai été gérante, c'était le Sisters.
Ouais.
Sinon, j'ai été gérante dans des bars mixtes, en voulant dire plus... Ben, en priorité hommes, mais qu'il y avait des soirées de femmes au Sky, même au Unity, puis au parking, tous ces endroits-là. Ouais. Mais je pense que le Sisters, c'est le seul endroit où j'étais gérante. J'étais barmaid, serveuse dans d'autres bars de femmes, là. Mais la gérance, c'est seulement au Sisters que je l'ai fait. Mais c'était pas facile de remplir. C'est très, très, très difficile de faire sortir les femmes 3-4 soirs par semaine. Puis il faut être niche, puis il faut vraiment... Moi, je me suis vraiment beaucoup donnée. Je savais que je faisais pas ça. Écoute, je faisais pas ça pour le salaire. Je faisais ça parce que j'y croyais. Je croyais à la communauté. Puis je comprenais le besoin des femmes de se retrouver entre elles. Parce que moi, la première fois que je suis sortie dans un bar gay, c'était au Bilutis, justement, que t'en parlais tantôt. Puis j'avais 17 ans. Et puis j'arrive là. J'avais déjà eu un chum, en fait, puis je comprenais pas, mais j'étais amoureuse de ma meilleure amie, mais je savais pas. Fait que là, j'arrive au cégep, du vieux, j'étudie en photo, puis là, finalement, j'étais avec d'autres artistes, des gens qui pensent plus comme moi, puis je trippe au bout. Là, j'avais un kick sur une fille à l'école, puis là, je comprenais pas ce qui se passait avec moi, qui m'amène dans un bar, qui était gay, un ami d'enfance qui était gay, qui m'amène au Bilitis, parce que les hommes avaient le droit d'y aller le samedi. Puis il m'amène au Bilitis, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pour la première fois de ma vie, j'ai su qui j'étais. J'étais chez moi.
Et t'étais pas tout seul.
J'avais un sentiment d'appartenance incroyable que j'avais jamais vécu dans ma vie. Donc, c'est sûr que moi, les bars, ça m'avait apporté énormément parce que je me suis découvert. J'ai découvert qui j'étais
pour
quand
beaucoup,
j'ai.
Pour,
quand
j'ai,
pour la première fois que je suis rentrée dans le bar, j'ai su qui j'étais pour vrai. Fait que c'est énorme. Tu sais, je suis d'accord avec toi qu'on a besoin de ces espaces-là.
C'est indispensable, indispensable. Autrement, il y a un sentiment de cloisonnement, puis j'irais même jusqu'à dire de confinement, parce qu'il n'y a pas d'endroit où tu peux aller et dire, je m'en vais à tel endroit ce soir, puis le monde qui va être là, c'est du monde qui va me ressembler, avec qui je vais bien m'entendre, avec qui je ne serais pas obligé de... avec qui tu peux être.
The Manifesto of Mother Monster. On Goat, a government-owned alien territory in space, a birth of magnificent and magical proportions took place. But the birth was not finite, it was infinite. As the wombs numbered, and the mitosis of the future began, it was perceived that this infamous moment in life is not temporal, it is eternal. And thus began the beginning of the new race, a race within the race of humanity, a race which bears no prejudice, no judgment, but boundless freedom. But on that same day, as the Eternal Mother hovered in the multiverse, another more terrifying birth took place, the birth of evil. And as she herself split into two, rotating in agony between two ultimate forces, the pendulum of choice began its dance. It seems easy, you imagine, to gravitate instantly and unwaveringly towards good. But she wondered, how can I protect something so perfect without evil? Thank you. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H-I. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, chola, descent. You're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast, for leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola, or Orient, me, I'm on the right.
Nous sommes de retour avec Lucie Duguay, Abby Schachter, Pascal McCoy et Richard Trudeau, avec qui on discute des bars lesbiens.
Moi, je pense que je sais pourquoi le monde ne va plus dans les bars. En fait, pourquoi les femmes ont abandonné les bars gays, là, c'est pas
parce qu'il manque d'entrepreneurship aussi, ou ça, c'est que l'erreur qui s'est passée dans les bars, c'est que je pense que le fait d'avoir été trop dans le village et moins sur le plateau ou un petit peu à l'écart du village, ça nous a nui parce que les femmes se reconnaissaient moins dans cet espace-là. Et puis aujourd'hui, si jamais j'avais à ouvrir quelque chose, ça serait jamais dans le village, c'est certain. Je suis désolée pour le village, mais ça serait pas là. Ça serait sûrement sur le plateau ou dans le Mainland parce que les lesbiennes se tiennent plus, sont plus, se sentent en sécurité, puis se sentent plus comme elles-mêmes dans ces quartiers-là qu'au village.
J'en ai pas fait mention tout à l'heure, mais il y avait, à l'époque, parce que j'ai découvert le Bilitis, il y avait également deux bars sur la Chaîne qui s'appelaient le Labyrinthe et le Lilith. Mm-hmm. Hein? Ça, c'était sur Saint-Denis. C'était...
Pendant un temps, on a dit que le plateau Mont-Royal était le village des lesbiennes.
Oui, mais où allait-elle?
Mais il y a eu le Haussaide, il y a eu l'exit aussi un peu plus haut.
Le Boom. Oui, l'exit. Et on allait au Labyrinthe, au Lilith, à l'exit, au Boom.
Oui, Boom.
Le Kiev.
Le Kiev, oui, le Kiev.
C'était un très bon bar, le Kiev aussi.
Oui. Mais enfin, je trouve, socialement parlant, je ne comprends pas qu'on n'ait jamais réussi à maintenir un, deux ou trois endroits nommément féminins. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de lesbiennes à Montréal. C'est pas parce qu'elles ne sortent pas. C'est juste que je comprends pas. Moi, je l'ai faite, mais je peux pas le faire jusqu'à la fin de mes jours. Là. Je vais être centenaire bientôt. C'est un petit peu ridicule d'aller faire danser les lunettes.
Toi, tu n'ouvrirais pas dans le village?
Hein? Non, absolument pas. En fait, aujourd'hui, je trouve, honnêtement, si j'avais ouvert un bar, puis s'il y a quelqu'un qui a envie de l'ouvrir, là, je suis bien correct avec ça. Non, je ferais plus Mylan, probablement. Hein? Entre le plateau et le Mylan ou le plateau, c'est sûr, mais honnêtement, plus le Mylan. Parce que le Mylan, la clientèle, c'est très niche, puis c'est un endroit où se trouve hyper sécuritaire. Moi, je suis à l'aise quand je marche là. J'ai pas... Je me sens que c'est comme... C'est cosy, tu sais. Il y a quelque chose de très confortable. J'ouvrirais plus un café-bar, or... Puis là, ça se vire en danse, là. Je ferais pas qu'un nightclub, là. C'est, pour moi, ça faudrait que ça soit quelque chose de communautaire qui pourrait avoir des artistes lesbiennes qui exposent ou qui font des trucs.
Oui,
des
une maison complète.
Oui, mais petit, ouais.
Une maison complète.
Ouais.
En sous-sol, tel type d'événement.
Carrément.
Au rez-de-chaussée, tu viens prendre le thé, tu rencontres les gens. Au premier, un peu plus cochon. Au dernier, l'orgie totale. Ça prendrait une maison complète.
Val-des-Jardins, qui avait ouvert quelque chose dans Mylan.
Le Phoenix, c'est vrai. Qui est maintenant le ping-pong, je pense.
Est-ce que ça roule encore pour les filles?
Non, non pas du tout. Je suis allée dernièrement, puis c'est vraiment... c'est très hétéronormatif, là, comme, ambiance.
Je pense que c'est Notre-Dame-des-Quilles, le dernier endroit qui est encore fréquenté comme...
Queer,
peut-être un peu lesbienne, mais comme...
Oui, oui, tout à fait, mais c'est plus considéré queer. Fait que c'est pas nécessairement lesbienne. Mais je pense que de toute façon, aujourd'hui, je pense pas... Non, c'est pas vrai, là, je m'excuse. Il y a une place pour les lesbiennes, mais de plus en plus, c'est plus les queer qui prennent la place que juste... Les gays, les lesbiennes. C'est pas très current de dire je vais ouvrir un bar de lesbiennes. Ce serait plus current de dire je vais prendre un bar queer, puis tu vas engager du monde queer, puis peu importe. Là. Hein? C'est des gens qui. Je pense que je trouve ça plus intéressant. C'est plus au goût du jour, je pourrais dire. Puis ça, ça aurait plus de sens pour moi d'ouvrir un bar queer que d'un bar lesbienne aujourd'hui. Ben en fait, tu sais, comme Lucie disait tantôt, elle a jamais voulu avoir un bar de lesbienne exclusif. Là.
C'est ça.
Elle a juste, ça a jamais été dans sa mentalité. Puis on parle des années 60, là, 70, mm-hmm. tu sais. Puis là, on est en 2020. On peut-tu avoir un bar queer, tu sais? On peut-tu être un peu plus ouvert d'esprit puis d'essayer de
s'ouvrir? Parce qu'il y a un gars comme
ouais.
toi.
Là. Parce que quelqu'un, de toute façon, qui veut juste des femmes dans un bar ou qui veut juste des hommes dans un bar, il n'aura pas envie de fréquenter cet espace-là que moi, j'aurais envie de créer, exemple. Fait que je pense qu'il y a de la place pour les deux, mais honnêtement, je ne me vois pas en train d'opérer quelque chose qui est trop exclusif. Oui, niche, mais pas exclusif pour un genre de personne.
Mais tu sais, comme avec les réseaux sociaux, les sites de rencontres sur Internet et tout ça, est-ce que les filles ont encore tant besoin de sortir pour rencontrer alors que notre génération avait besoin d'aller dans les bars pour rencontrer?
On est encore dans une pandémie, là, puis qu'est-ce que ça vous fait d'être en pandémie puis de rester chez vous puis pas toucher à personne? Bon, ben voilà. C'est pas compliqué. On a besoin de se voir.
Ouais.
On a besoin. On n'a pas besoin d'être sur Her ou whatever, là. C'est comme... C'est bien beau, là, mais tu fais le tour vite de Her, là. Hein?
C'est ça, il y a plusieurs plateformes maintenant où les filles se rencontrent aussi.
Ça donne... C'est virtuel.
C'est virtuel.
C'est virtuel. Mais moi, je veux dire, mon virtuel à moi, souvent, est pas mal plus passionnant que le virtuel de ces sites-là. Au moins, le mien, je le bâtis, moi. C'est, OK, c'est ça qui me branche. On va le chercher. Mais des sites comme ça, on a besoin, en tant qu'humain, d'avoir des personnes qui sont des intermédiaires et des facilitateurs pour le contact. Ça prend ça. Tout le monde n'a pas le talent de faire ça. Il y a des personnes qui sont capables. Moi, je suis capable de faire ça avec le nombre de personnes que j'ai mises ensemble là, dans ma vie, je les compte. J'ai des mariages à mon actif. J'ai des listes. Je peux prouver que j'ai sauvé des mariages. C'est un travail extrêmement noble d'être la personne qui facilite les rapports d'un humain avec un autre. Mm. C'est très noble et c'est très intéressant. C'est varié. En tout cas, moi, je ne me suis pas ennuyée du tout dans ce travail-là. Je l'ai fait pendant 38 ans.
Merci d'avoir fait ça pour nous.
Ben quoi? Oui.
Ici, on est toutes des filles qui ont travaillé pour toi, puis oui. Qu'on a adoré notre expérience. C'est vraiment chaleureux. Abby a travaillé au standing, ouais. Parce qu'elle était aux Sisters.
J'étais dans la partie
cachée.
Le milieu, c'était entre le catacombe puis le quart d'eux.
Ouais, le caché.
Le caché, oui.
Ah, oh, je m'ennuie du cachet, moi.
J'adorais ça.
Il y avait des brunchs gospel le dimanche, oui. C'est super cool.
Mm-hmm. Avec des beaux fauteuils et des endroits confortables
des
et chic.
Ouais.
Non, Bruce, ça a été un homme que j'ai trouvé intéressant dans ce milieu-là. Il y a des idées.
Mais même le Cox, on regarde ça, ça fait des années qu'il n'est pas ouvert. Il y a eu un petit essai à un moment donné en haut.
Dans le même bâtisse?
Oui, en haut. Mais ce gros complexe-là n'a jamais été reloué non plus depuis des années. On ne sait pas trop comment expliquer ça. Est-ce que les bars sont devenus... Parce que quand on rentrait dans une petite place, qu'on était accueilli par quelqu'un comme toi, ou Pascal, ou quelqu'un qui accueillait les gens, qui étaient... Tu sais, maintenant, c'est tout des gros complexes. On se sent un peu... C'est impersonnel.
Absolument. Absolument. C'est comme entrer dans un supermarché. C'est aussi anonyme et aussi peu gratifiant. Quand tu veux qu'un endroit où tu veux que les humains se rencontrent marche, il faut qu'il y ait des bons humains pour le faire.
C'est ce que tu as fait.
Moi, j'ai inventé mon métier. Hein. Il n'y a jamais personne qui m'a dit quoi faire et comment le faire. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a personne qui m'a dit « Ah, tu dois faire ça. » J'apprenais sur le tas. Me trompais, je payais pas. La semaine d'après, c'était différent.
Les enfants aussi ont travaillé avec toi.
Les enfants ont travaillé avec moi. Leur premier boulot, c'est moi qui leur ai donné. Pascal est venu... J'étais ton premier emploi, Pascal? Hein?
Tu travaillais dans un McDo.
Ah oui, c'est vrai. Tu travaillais au garage aussi.
Après ça, j'ai arrêté.
Yeah.
En haut du
Cox,
j'ai
21 ans
quand même,
parce que
je travaille
depuis
que j'avais 15 ans.
On dit en anglais, 3 is the charm.
En tout cas, moi, je trouve que j'ai été privilégiée de faire le travail que j'ai fait, parce que, honnêtement, ça m'a bien fait vivre et j'y ai pris beaucoup plaisir. J'ai rencontré des personnes dans les boîtes que j'aurais jamais rencontrées. Je fréquentais le ministre de la Justice au fédéral. Je voyais le premier ministre venir prendre un verre dans l'arrière-bar. J'étais avec le futur juge en chef de la Cour suprême, Mario. J'ai connu Frank Cotroni, le chef de la mafia. Il était dans mon bar un jour. Puis là, je le regarde. Puis le gars, son avocat, c'était Antonio Lamère, qui est devenu juge en chef à la Cour suprême après coup. Et je vois Cotroni avec Tony. Puis moi, je suis moi, mais la fois d'après, quand Tony arrive, je dis « Hey, c'est quoi, là? Il est-tu en train de faire son enquête, savoir si c'est une place qui l'intéresserait? » Fait qu'il m'a dit « Non. Il adore ton plafond en tuiles. Puis il voudrait en faire un comme ça dans la cave pour ses enfants. » J'ai fait comme « Voici l'adresse. Tu peux y donner. Il n'est pas obligé d'en venir. Donne-y, toi. » Mais pour te dire que j'ai rencontré... Je me rappelle, un soir, j'avais mon garagiste qui s'appelait André Sanson qui venait de réparer mon auto et qui est venu faire un tour à la boîte et est arrivé Francis Fox, comme une demi-heure plus tard, puis il était assis un côté de l'autre. Francis, il était ministre de la Justice au fédéral, puis André, c'était mon garagiste. Et ils ont passé la soirée ensemble, ils ont trippé comme des malades, ils sont devenus copains-copains. Et là, mon garagiste s'est mis... Ah, ben, je pensais pas qu'un député ou un ministre, ça pouvait être aussi facile d'accès. Et le ministre de la Justice était très heureux, lui aussi, au lieu d'avoir un confrère plate,
ouais.
De jaser avec un vrai gars de la vraie vie, là, tu sais. Alors, non, j'ai connu des gens fabuleux, j'ai rencontré des gens merveilleux, j'ai eu de belles rencontres.
Mais à quel moment ton mari t'a dit
qu'il était gay?
On est restés ensemble pendant assez longtemps. Sauf que j'ai fait... Mes enfants avaient 2 ans et 1 an. Et j'ai attrapé un virus qui s'est logé dans ma tête. J'ai fait une méningo-encéphalite virale. Et ils m'ont déclarée quasiment mourante. Et puis, aussitôt que j'ai été déclarée comme viable, Ben mon mari est venu me voir, il m'a dit, ben là, j'ai mon ancien chum, Charles, qui se marie à Toronto, fait que je m'en vais au mariage. Je suis encore couché sur mon lit d'hôpital, moi, là. Puis on a une bonne à la maison qui fait pas de différence entre une vie de steak haché puis une boîte de Tide. Elle vient de débarquer, là. Fait que, pour moi, là, mon mari, là, il a pris, là, comme une débarque désastreuse. J'en suis jamais revenu qu'il ait aussi peu conscience qu'il était le père de ces enfants-là, puis que j'étais pas en état de... J'étais à l'hôpital. J'étais limitée au maximum. J'en suis jamais revenue qu'il soit parti, en laissant cette femme-là prendre soin de nos enfants. Elle était bien, mais... Ouais. Et c'est là où est-ce que vraiment, pour moi, là, cette fois-là, il a pris une débarque, là, il était là, ben il est devenu grand-mère. Et après ça, ça n'a pas pris grand-chose. Quand, à un moment donné, le médecin lui a dit, elle doit être en convalescence, il faut que lui éviter tout travail. Ben, trois semaines plus tard, il a attrapé un contrat à Québec, puis il est parti à Québec passer l'été à faire la bamboche, pendant qu'il me laissait à Montréal, en train de récupérer avec deux petits cébras. Fait que c'est là que ça a pris à débarque.
Mais toi, tu t'es rendu compte que tu étais attirée par les femmes après que tu étais secrétaire?
Longtemps après. C'était vraiment longtemps après. C'est juste quand ma secrétaire m'a dit « Tu dois venir voir ça, ça n'a pas de bon sens. » C'est là où j'ai fait comme « Ah! » Tu sais, vraiment.
La première fois que tu es rentrée dans le bar.
Je connaissais pas une seule fille gay. Pas une. J'en connaissais du monde, là. C'est curieux, hein?
Fait que c'est important aussi d'avoir des lieux où les gens...
À la limite, si je te pose la question, on est un groupe, mettons, de 20 personnes. Comment est-ce que je peux deviner que les filles sont gays s'il n'y a aucune mention qui est faite, quelle qu'elle soit, de « Ah, oh, as-tu vu le canon qui vient de passer? » Ou si tout le monde est comme... Et la seule façon de faire se révéler ça, c'est de faire des lieux où tu peux le faire sortir.
Absolument.
J'en connais pas beaucoup qui ont dû aller aussi dans la mais c'est la preuve que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire mon travail. Tu fais pas 38 ans dans une job que t'as eu. Bon, ben, les petites ont grandi.
Oui. On est rendu 50.
Vous vous rendez compte? J'ai connu, vous étiez dans la belle vingtaine.
On était vraiment...
On était vraiment
dans la jeune vingtaine, là.
J'avais 22.
J'ai toujours été la matriarche, dans le fond. T'es plus vieille aujourd'hui que l'âge que moi j'avais quand je vous ai connu.
Oui, j'ai pensé à ça aussi.
Ah, ça peut capoter, c'est vrai.
T'avais tes quarantaines.
T'avais quel âge quand on t'a connu?
Bien sûr,
début de la quarantaine. Ben les filles, c'était vraiment chouette de vous retrouver.
Carrément.
Faudra se faire ça au moins une fois par quelques mois, là. Faudrait pas attendre 5 ans. Always remember us that way.
Oh.
Comprenez?
Ok, je vais comprendre. Butters on the sky. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, this way, lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're welcome. I'm
Je tiens à remercier Lucie Duguay pour cette entrevue et pour son apport à la communauté lesbienne. Lucie a pris soin de sa clientèle et de ses employés de façon exceptionnelle pendant toutes ces années. Un grand merci à Pascal McCoy qui est maintenant DJ au Cabaret Mado et au District. Merci beaucoup à Abby Schachter et à Richard Trudeau. Et nous, on va se quitter avec une bonne nouvelle. Quelques jours après cette entrevue, j'ai croisé Florence Gagnon de LSTW qui m'annonçait qu'elle et ses associés ouvraient un bar, l'Idéal, situé au 151 rue Ontario-Est, ayant la mission de rassembler les adeptes de vin nature, de la culture et des arts. Plusieurs femmes sont impliquées dans ce projet, ça devrait donc se refléter dans les soirées. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous le 20 décembre à 19h pour une autre émission de Lesbosons.
Ici Martin Carly, vulgarisateur scientifique. La vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19 est commencée. En tant que parent, vous vous demandez peut-être si le vaccin est sécuritaire et efficace. La réponse est oui. Le vaccin est approuvé par Santé Canada et a fait l'objet d'études de qualité portant sur des milliers de personnes, dont des jeunes. Des experts suivent aussi de très près toute manifestation indésirable qui pourrait survenir après la vaccination.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur québec.ca/vaccinjeunes. Un message du gouvernement du Québec.